Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, les CAPS, ou syndrome périodique associé à la cryopyrine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sophie Georgin-Lavial. Professeur Georgin-Lavial, bonjour.
Bonjour.
Professeur Georgin-Lavial, vous êtes médecin interniste au sein du service de médecine interne de l'hôpital Tenon à Paris et responsable du centre constitutif adulte du CEREMAIA, le CEREMAIA étant le centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose. Alors, professeur Georgin-Lavial, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'appelle-t-on CAPS ?
Il s'agit d'une maladie rare qui fait partie des maladies auto-inflammatoires, où il y a un désordre de l'immunité innée. Elle est associée à des mutations d'un gène appelé NLRP3, et ce gène code une protéine appelée cryopyrine. Ainsi, en français, on parle de cryopyrinopathie, et c'est le terme que j'utiliserai aujourd'hui. L'acronyme CAPS, dont vous venez de parler, vient de l'anglais et signifie « cryopyrine associated periodic syndrome ». L'association entre le gène et la maladie a été découverte en 2001, soit il y a un peu plus de 20 ans. Avant, on avait donné trois noms différents pour cette maladie. Une forme assez bénigne, l'urticaire familiale au froid, une forme pouvant être un peu plus sévère, le syndrome de Meckel-Wells, et une forme très sévère, le syndrome 5A. Maintenant, le terme de cryopyrinopathie regroupe les trois formes de la maladie. Il y a un peu plus de 120 cas en France, selon la base de données nationale maladies rares, dont un tiers de forme 5A, qui est la forme la plus sévère. Ce chiffre est probablement sous-estimé, car il y a des patients ou des familles avec cryopyrinopathie non diagnostiquées en France.
Et quelle est la physiopathologie de cette maladie rare ?
Alors, on a vu que les patients présentent des mutations du gène NLRP3. Ce gène code une protéine appelée cryopyrine. Et dans cryopyrine, il y a deux racines de grec ancien, cryos, le froid, et pyros, le feu. Donc, c'est une protéine qui va capter des signaux de l'extérieur, en particulier du froid, de l'environnement, du cryo. Et quand il y a une mutation, ce signal de froid va activer en excès les globules blancs qui vont produire dans le sang de l'inflammation, d'où pyros, le feu, via en particulier une molécule appelée l'interleukine 1. Et si on fait une prise de sang, cela va se traduire par une augmentation du nombre de globules blancs et du taux de la protéine de l'inflammation qui est la plus connue, qui est la C-réactive protéine. Chez les patients, cela entraînera de la fièvre, des frissons et des manifestations dans plusieurs organes que je vais détailler un petit peu après. Au plan génétique, le syndrome 5A survient de façon isolée. On parle ainsi de néomutation et les enfants en général sont les seuls atteints de leur famille. Alors que dans les autres formes de la maladie, qui peuvent se transmettre dans des familles de génération en génération, on parle de transmission dominante, c'est-à-dire qu'un parent va transmettre la maladie à la moitié de ses enfants. Et dans ce cas, les symptômes débutent dès la naissance. Mais il y a parfois des cas isolés et la maladie peut ainsi apparaître à tous les âges de la vie. Dans cette situation, on parle de mutations somatiques ou acquises.
Et d'un point de vue clinique, quelles sont les principales manifestations de la maladie chez les patients qui sont touchés ?
Alors la maladie touche tout le corps, mais certains appareils sont principalement touchés, notamment la peau, les muqueuses, les articulations, le cerveau et le tube digestif. Dans les formes qui sont un peu moins sévères, anciennement appelé urticaire familiale au froid ou syndrome de Meckel-Wells. On a vu que ça débute le plus souvent à la naissance, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Les patients présentent des éruptions d'urticaire qui sont récurrentes. On a vu que le froid activait la protéine. Et bien, quand le patient est exposé au froid, il peut déclencher une poussée d'urticaire et ensuite l'inflammation se répand dans le corps avec de la fièvre qui se manifeste volontiers par des frissons, des douleurs de ventre, des douleurs aux articulations qui peuvent d'ailleurs gonfler. Et si cela se répète, il peut y avoir des complications et donc les patients peuvent présenter une surdité, des uvéites et enfin, dans les complications les plus sévères, ils peuvent présenter une atteinte des reins qui va se manifester par des gonflements des chevilles et on parle alors d'amylose inflammatoire. Le syndrome 5A, on a dit que c'était la forme la plus sévère, qui débute dès la naissance et qui va associer plusieurs atteintes. L'atteinte la plus sévère, c'est l'atteinte du système nerveux central qui peut aller d'une hypoacousie à une surdité totale de perception, ainsi qu'une méningite chronique aseptique et un déficit intellectuel dans les formes les plus sévères. À part cette atteinte du système nerveux central, on y associe l'atteinte des yeux, qui peut donner des uvéites, hein, des atteintes de la rétine et entraîner une baisse d'acuité visuelle. On a vu que la peau et les muqueuses sont atteintes, donc le symptôme le plus fréquent, c'est l'urticaire chronique qui n'est pas pruriginose. Également, les patients peuvent présenter des aphtes dans la bouche, des aphtes aussi au niveau génital, on peut avoir une aphtose bipolaire. Enfin, les articulations sont un siège préférentiel, notamment les grosses articulations, notamment les genoux et les chevilles. Donc les patients présentent au minimum des douleurs, mais le plus souvent des arthrites qui peuvent détruire les articulations. Également, comme la mutation peut se mettre dans des cellules des cartilages, les patients peuvent présenter des bosses frontales et une déformation dans l'ocellum nasal, donc une déformation un petit peu du visage. Et l'acronyme 5A vient de l'anglais et signifie chronique infantile neurological cutaneous articulaire.
Et en l'absence de prise en charge, quel est le profil d'évolution de cette maladie?
Alors, chez les enfants, en cas de forme 5A, on a vu que c'est une forme sévère, ils ont de l'inflammation en permanence. Le C, hein, c'est pour chronique dans 5A. Ainsi, ils peuvent développer des complications petit à petit qui vont être sévères, notamment neurologiques. On a parlé juste avant de méningite, de surdité. Ensuite, oculaire, avec des uvéites, voire une baisse d'acuité visuelle. Et enfin, au niveau RL, une surdité perception qui est presque toujours présente. Au plan articulaire, on a vu qu'il présentait des arthrites. Les arthrites peuvent se compliquer de déstructures articulaires. C'est des enfants qui peuvent avoir été dans l'enfance opérés s'ils n'ont pas eu de traitement approprié. Et en l'absence de traitement, une grande partie des tout-petits hein, ont un retard de croissance jusqu'à ce que le diagnostic soit fait et le traitement débuté. Chez les adultes, les complications les plus sévères sont au jour d'aujourd'hui la surdité et l'atteinte rénale par amylose, qui peut malheureusement conduire les patients en dialyse si jamais les reins ne fonctionnent plus du tout. Et puis, comme chez les enfants, il y a l'atteinte des yeux qui peut entraîner une baisse d'acuité visuelle.
Et en cas de signe évocateur, professeur Georges Labial, à qui adresser les patients et dans quel délai?
Alors, les principaux signes évocateurs qui doivent vous y faire penser sont clairement l'urticaire, les manifestations neurosensorielles, donc méningite chronique, surdité, uvéite, qui sont quand même assez rares, dans un contexte d'inflammation sanguine. Donc le patient a toujours une C-réactive protéine élevée. Il faut faire le plus rapidement possible le diagnostic, donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de délai, idéalement. Il faut un diagnostic génétique rapidement pour débuter le traitement qui repose sur les inhibiteurs de l'interleukine 1, c'est le traitement de référence des cryopyrinopathies. Ainsi, il faut les adresser rapidement vers un centre de référence ou de compétence pour les maladies auto-inflammatoires. Et en 2023, le séquençage du gène NLRP3 se fait par séquençage nouvelle génération qui permet de détecter toutes les mutations. Bien sûr, en cas de forme familiale, il faudra proposer un dépistage à tous les membres de la famille qui présentent des symptômes de la maladie.
Eh bien, merci mille fois, professeur Georges Labial, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les CAPS. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.iraralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.